Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Hello. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une semaine d'Instant M.
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Première enquête, première convocation par la DGSI, c'est ce qui s'appelle réussir son entrée. Disclose est un nouveau média d'investigation qui s'est lancé en novembre dernier. Sa première enquête concerne la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite. Elle a été publiée il y a quelques jours. Et la semaine dernière, trois journalistes ont été convoqués par les services de renseignement français suite à une plainte de la ministre des Armées. Une enquête pour compromission du secret de la défense nationale a été ouverte. On parle ce matin de protection des sources des journalistes, on parle de secret défense et de liberté d'informer. On parle surtout des conditions nécessaires à un vrai journalisme d'investigation.
L'Instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
L'entreprise Nexter devait fournir 24 canons César à l'Arabie Saoudite en 2018. D'après un document interne au groupe obtenu par Disclose. Le document confidentiel de Nexter indique que 105 canons César doivent être livrés à l'Arabie Saoudite entre 2019 et 2024. Aucun élément ne permet de savoir combien d'entre eux iront rejoindre le front yéménite. Une chose est sûre, la France persiste à vendre des armes à l'Arabie Saoudite en sachant qu'elles peuvent servir contre des civils.
Extrait de la vidéo mise en ligne sur Disclose. Les cofondateurs de ce nouveau média d'investigation en ligne sont mes invités, Geoffrey Livolzi et Mathias De Staël. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes donc convoqués par la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, le 14 mai prochain, tout comme Benoît Colombat, journaliste de Radio France. La cellule d'investigation de Radio France était votre partenaire sur cette enquête. Vous n'êtes pas en garde à vue, c'est important de le préciser, vous n'êtes pas mis en examen, mais vous êtes obligé de vous rendre à ce rendez-vous. Est-ce que vous y voyez une méthode d'intimidation ?
Écoutez, dès lors que la police convoque des journalistes qui ont fait leur métier, à savoir diffuser des informations au public, on peut imaginer que c'est pas simplement pour y boire le café. Donc oui, ça semble être une méthode d'intimidation. En tout cas, la seule raison de nous convoquer aujourd'hui, c'est celle de connaître les sources qui nous ont permis de publier cette première enquête de Disclose.
Comment êtes-vous sûr de ça ? Comment êtes-vous sûr qu'il s'agit d'obtenir vos sources, Geoffrey Livolzi ?
Ben, on en est sûr parce qu'on a nous-mêmes d'autres sources. Qui, au sein des ministères, nous informe qu'il y a une vraie chasse en ce moment aux sources en cours, avec des enquêtes aussi internes dans les ministères de la Défense, les ministères du Quai d'Orsay et aussi d'autres services aujourd'hui de l'État, où ils cherchent à tout prix à se connaître et à savoir et empêcher effectivement d'autres sources de sortir des documents.
Inutile de préciser que vous n'avez pas l'intention de révéler vos sources aux agents de la DGSI.
Précisons-le, si jamais ils nous écoutent, effectivement, nous ne révélerons pas nos sources, non.
Entrons dans le détail de cette enquête sur les armes françaises au Yémen. Ce que vous révélez, c'est que la France persiste à vendre des armes à l'Arabie Saoudite en sachant qu'elles peuvent servir contre des populations civiles au Yémen. Comment parvenez-vous à cette conclusion ?
On parvient à cette conclusion grâce à l'obtention d'un document classé secret défense, confidentiel défense, donc qui a été publié, qui émane de la direction du renseignement militaire français, la DRM, du ministère des Armées. Ce document prouve par le menu et détaille la liste des armes aujourd'hui impliquées dans ce conflit au Yémen, chose que le gouvernement français n'avait jamais voulu confirmer depuis des années que la question est posée par des ONG et des acteurs de la société civile.
Voilà, cette note de la DRM fait une liste détaillée des armes françaises impliquées dans le conflit. Charles Leclerc, obus flèche, canon César. Les auteurs du rapport ont scrupuleusement noté chaque modèle et ça révèle surtout que ces armes Made in France, c'est le titre de votre enquête, font feu sur les civils au Yémen. Florence Parly, ministre des Armées, était interrogée à ce sujet sur France Inter par Ali Badou en janvier.
Faut-il cesser de vendre des armes à l'Arabie Saoudite ?
C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, mais en cas j'ai plaisir à nouveau à répondre.
Non, vous êtes toujours agacé quand on vous pose la question, mais c'est une question légitime.
Ce que je peux vous dire, Ali Badou, c'est que nous n'avons récemment vendu aucune arme qui puisse être utilisée dans le cadre du conflit yéménite. Je n'ai pas connaissance du fait que des armes soient utilisées directement dans ce conflit, qui sont
vous
des
savez
armes
pas, ou vous
de
ne voulez
protection.
Pas
à ma connaissance, c'est que je n'ai pas connaissance. Les mots ont un sens.
Cette enquête de Disclose a été publiée le 15 avril, il y a deux semaines tout juste. Avez-vous eu des nouvelles de ce dossier depuis ?
C'est silence radio de la part du pouvoir exécutif.
Si on exclut évidemment cette convocation de la DGSI, hein, qui est une manière d'avoir des nouvelles.
Ce qui nous surprend d'autant plus, c'est qu'on a envoyé une liste de questions très détaillées à tous les ministres concernés par ce sujet et à la présidence de la République. Nous n'avons eu qu'une réponse très peu précise qui venait des services du Premier ministre de Matignon. Et depuis, rien du tout, sinon une convocation par la DGSI.
Ce n'est pas anodin, hein, ce mot que répète sans arrêt Florence Parly, connaissance. Elle n'a pas connaissance que des armes soient utilisées contre des civils. C'est bien ce que le contraire, hein, que montre votre enquête.
Il joue depuis des mois sur les mots. Il dit aujourd'hui, c'est finalement ce document, leur document, parce que ce document, il était à destination de la présidence et de l'exécutif. Il était rédigé pour la présidence et l'exécutif. Et c'est ce document qui vient les faire mentir. Donc c'est encore ça qui les énerve sûrement le plus, c'est que c'est pas en soi, il y a notre enquête, mais le point de départ de cette enquête, c'est leur propre document qui les fait mentir aujourd'hui devant l'opinion publique.
Avez-vous l'impression que votre enquête a eu suffisamment d'écho médiatique ? C'est un gros dossier, hein, qui concerne les ventes d'armes fabriquées en France dans un conflit armé. Comment vous êtes surpris par l'accueil médiatique que ça a reçu ? Alors il faut préciser que ça arrivait le même jour que l'incendie de Notre-Dame de Paris.
Oui, mais le conflit au Yémen s'étale, dure depuis 4 ans maintenant. Beaucoup de, encore une fois, d'acteurs de la société civile et d'ONG travaillent à alerter l'opinion publique sur ce conflit qui implique des armes européennes, américaines et qui tue beaucoup de civils. C'est, selon l'ONU, la pire catastrophe humanitaire du monde. Moi, on estime que nous, en arrivant après beaucoup d'autres gens, l'impact et la sensibilisation sur ce sujet est un succès. On a réussi à sensibiliser sur cette question et je crois qu'on arrive un petit peu à sensibiliser aussi sur la question de cet angle mort démocratique qui est l'exportation d'armement vers des puissances étrangères.
C'est pas pour rien qu'on appelle l'armée française la grande muette, mais dans le public français, est-ce qu'il y a une culture pour s'intéresser à ces sujets-là, à votre avis, Geoffrey Livolgi?
Il y a une culture qui est moins développée que dans d'autres pays, mais qui est aussi journalistiquement moins développée. Hein. C'est un des thèmes, la question de l'armée, de la diplomatie, qui est finalement le moins enquêté en France. Et aujourd'hui aussi, dans la population, on remet rarement en cause le discours officiel en termes de diplomatie, d'affaires étrangères ou de défense. C'est-à-dire que si on va faire la guerre ou si on soutient une guerre, il y a rarement une levée de bouclier de l'opinion publique contre ces guerres. Il y a eu lors de la guerre en Irak, mais sinon sur l'intervention au Mali, où il y aura énormément de choses à enquêter et à dire aujourd'hui, il n'y a pas tellement de conscientisation. Mais elle arrive, et avec ce conflit au Yémen, je pense qu'il y a eu une évolution dans l'opinion publique.
Revenons-en à cette convocation par la DGSI. Vous n'êtes pas mis en cause, hein, je le disais, vous serez entendu libre par les services de renseignement français. D'aucuns pourraient vous dire que vous criez bien vite au loup, finalement, en parlant d'intimidation.
En fait, quand on nous convoque en audition libre, ça ne signifie pas qu'on ressortira libre. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que la convocation précise bien qu'on est convoqué en audition libre, mais elle précise aussi que ça serait pas mal de venir avec un avocat, car l'infraction pour laquelle nous allons être auditionnés nous menace d'une. Enfin, c'est une infraction de 75 000 euros d'amende et de 5 ans d'emprisonnement.
Le problème, c'est que vous avez la même avocate et que vous êtes convoqué à la même heure.
Voilà. Ouais. Et c'est un peu compliqué. Donc, ça, c'est la petite discussion.
Séparément, bien sûr. Convocation séparée.
Ouais, convocation séparée. Et effectivement, ils ont l'air de pas vouloir transiger sur cela, ce qui nécessite de prendre un deuxième avocat. Alors, ils évoquent les nécessités impérieuses de l'enquête.
Vous y voyez une manière de dissuader les autres journalistes de s'intéresser à ces sujets-là ?
On y voit une manière de dissuader les autres sources et personnes sensibles sur ces sujets-là à communiquer des informations aux journalistes.
Donc vous ne direz rien, très concrètement, le 14 mai, dans les bureaux de la DGSI, vous ne direz rien ?
On utilisera la loi qui nous permet de protéger nos sources, donc de garder le silence.
Depuis que vous avez été convoqué, hein, vous avez reçu le soutien de très nombreux confrères et consoeurs journalistes. Dans une tribune publiée par Libération, on peut lire qu'en ces temps décidément préoccupants pour la liberté d'informer, ces convocations rappellent à quel point il est important de renforcer en France la protection des sources. Comment faire très concrètement pour les protéger, ces sources ?
Aujourd'hui, la meilleure façon de protéger les sources, c'est de leur de préserver, c'est une grande partie du travail des journalistes, leur anonymat au maximum. Et de pouvoir tout faire pour mettre...
Il y a une loi qui a été votée en 2010.
Il y a une loi qui a été votée, la loi Sapin. Le problème, c'est que dans ce cadre-là, elle ne s'applique pas. Pour le secret défense, les sources ne bénéficient pas de la protection. Même si on est contraire à des textes internationaux ou autres, elles doivent faire l'alerte en interne. Et il n'y a aucun moment où, dans cette alerte en interne, elles peuvent utiliser l'alerte externe.
Voilà, vous êtes effectivement convoqué dans le cadre d'une enquête pour compromission du secret de la défense nationale. Question volontairement naïve, Mathias Destal, est-ce que vous estimez que le secret défense ne sert à rien ?
En tout cas, je dirais que le secret défense sert dans le cadre où la souveraineté nationale est menacée. Je dis ça comme ça, c'est du théorique. Par ailleurs, je pense que dans un document comme celui qu'on a publié, le secret défense ne se justifie pas. Ça se discute. On peut
la
discuter
la vente d'armes à l'étranger, ça ne concerne pas la souveraineté nationale ?
Non, ça concerne plutôt des partenariats commerciaux, selon moi.
On vous sent peu disert sur le sujet.
Il a raison. C'est aujourd'hui, nous on le valide ce document, on l'a rendu public parce qu'il met pas en danger des opérations des militaires français ni des agents sur le terrain, mais que c'est en fait le service après-vente du suivi des armes françaises. On est sur des ventes d'armes privées. Sur des opérations militaires françaises.
C'est une question que vous vous posez en tout cas au moment de rendre public ce document classé secret défense de la direction des armées. Vous vous demandez si la sécurité nationale est impliquée ?
On s'est demandé si des militaires pouvaient être mis en danger avant de publier ce document. C'était la première chose aussi, c'était de vérifier que ce document soit vrai et que ce document, on n'est pas à Wikileaks, que ce document n'allait pas entraîner des dangers pour les gens effectuant les Français sur place ou des militaires dans des bases.
Est-ce qu'il faut opposer liberté d'informer et secret défense, Mathias Destal ?
Là, en l'occurrence, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est le bras de fer qui se joue et en face, ils le savent autant que nous qui sommes là pour défendre, pour le coup, la connaissance du public sur des sujets d'intérêt général.
Alors, Disclose est un média d'investigation à but non lucratif. C'est une formulation un peu étonnante en France, ça mérite des précisions, puisque la démarche est inédite. Comment ça marche, Disclose ? Qui finance votre média d'investigation ?
Alors, Disclose, non lucratif, ça veut dire, premièrement, qu'en fait, on n'est pas un média commercial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement, qu'on ne fait pas de bénéfices et que ces bénéfices ne sont pas reversés à des actionnaires. Donc, c'est le principe de l'association, finalement. C'est une ONG, c'est une association. Ce qui est le financement de Disclose, c'est les donations. Des donations qui sont venues de la campagne de financement participative, 82 000 euros, c'est à peu près 1300 personnes qui ont
donc
donné.
Des particuliers qui ont donné,
qui continuent à donner ces derniers mois et qui ont redonné depuis le début de l'enquête la semaine dernière. Et donc ça, c'est le soutien financier principal. Et un deuxième volet, qui est le volet financement par des fondations sur le modèle de Correctiv en Allemagne, par exemple.
L'information, l'investigation, ça coûte cher et ça rapporte peu. C'est le constat de départ, Mathias Destal ?
Oui, c'est exactement ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Disclose.ngo. C'est parce que ça demande du temps, des moyens. Ça ne rapporte pas grand-chose à des boîtes capitalisées, capitalistiques. Donc du coup, pour nous, c'était aujourd'hui une réponse pour promouvoir ce type de journalisme.
Le problème de la donation, le problème du fait de compter sur les particuliers, c'est que c'est compliqué d'assurer un salaire à long terme. Vous êtes, vous, tous les deux payés par Disclose. Est-ce que ça peut marcher longtemps de fonctionner comme ça ?
Alors, pour l'instant, on n'est pas payé par Disclose.
C'est du bénévolat ?
On fait du bénévolat. Ça peut fonctionner, oui, parce que ça fonctionnait dans d'autres pays où, finalement, la donation, le don était moins développé qu'en France. C'est le cas en Allemagne.
Correctiv. Voilà, un média d'investigation qui est très implanté en Allemagne, assez récent.
Et il y a aujourd'hui, on dit, en fait, c'est du soutien. Si vous donnez à Disclose, vous ne devenez pas... vous n'êtes pas abonné, l'information a un accès libre, mais en donnant, vous soutenez une cause. Et cette cause-là, c'est une information indépendante, un journaliste d'investigation. Donc on est vraiment dans un rapport de soutien à une cause, quand on fait une donation ou quand on devient membre de Disclose.
L'exemple de Correctiv en Allemagne est intéressant, en effet, sauf qu'il y a en Allemagne une culture du mécénat qui est très différente de ce qui existe en France. Les fondations allemandes pèsent très lourd, financièrement, mais aussi dans la société. En France, c'est pas la même chose, Mathias Destal.
Non, c'est pas la même chose, mais il y a aussi une culture du mécénat qui existe pour le coup dans la culture, justement.
Notre-Dame de Paris l'a montré.
Voilà, mmh. Typiquement, un cas d'école. Dans les médias, c'est moins le cas. Mais en Allemagne, c'était pas le cas aussi avant Corrective. Corrective est un précédent. Mmh. Donc nous, on s'inspire de ça aussi. On essaye d'impulser du don et du soutien des fondations dans les médias.
Fondation d'entreprise, accepterez-vous l'argent des fondations d'entreprise? Sujet
non.
Important. Non, pourquoi?
Non, c'est parce qu'on ne voulait pas de journalisme washing. Ce risque-là, c'est de dire l'entreprise Total, la fondation Total, qui donnerait de l'argent à des journalistes, pourrait dire, ah bah, attends, on fait plein de choses horribles sur l'environnement et d'autres choses, mais à côté, on donne aux journalistes d'investigation.
Voilà, sur le modèle du greenwashing, voilà. Ces entreprises qui communiquent sur leur comportement écolo, mais qui ne modifient pas du tout leur impact sur l'environnement.
Et on a un problème de valeur. Et donc, nous, on a toujours dit qu'on voulait choisir nos financements et notre indépendance sont liées à nos valeurs. Et il y a un problème de valeur avec les valeurs de certaines fondations d'entreprise. Et donc, au lieu de décider à chaque fois oui, non, on a dit qu'on ne prenait pas de fondations d'entreprise qui ont, eux, des intérêts vraiment commerciaux à soutenir telle cause ou telle cause.
Donc, si la fondation Total ou la fondation L'Oréal vous propose beaucoup d'argent en vous garantissant et en l'écrivant, en le signant, qu'il n'y aura aucune ingérence dans le contenu de vos enquêtes, dans l'éditorial, vous refusez quand même cet argent.
On devra leur dire que nous sommes navrés de devoir refuser effectivement cette offre.
C'est une manière en creux de critiquer pour vous le fonctionnement médiatique français. Hein. Les grands groupes de presse sont possédés par des puissances industrielles. C'est quelque chose que vous voulez remettre en cause ?
Bah, le meilleur modèle d'indépendance, ça reste le modèle où on est entièrement financé par ses lecteurs.
Donc c'est pas le vôtre.
Ses abonnés.
Parce qu'il y a de la fondation aussi
chez nous.
Vous.
Voilà, notre modèle est pas à 100% parfait. Le meilleur modèle, on le connaît, ça peut être Mediapart, c'est le canard qui arrive à se développer. Disclose, l'objectif, c'est celui-là, c'est de vivre à terme entièrement par la donation de ses lecteurs, hein, parce que ces fondations qui viennent aider et soutenir le développement du journalisme d'investigation, elles vont pas être là pendant une éternité. Et ce qui s'est passé avec Corrective, c'est que maintenant, ils sont à près de 55 000 membres qui soutiennent et de chaque année augmente le niveau de donation vers Corrective.
Vous citez Mediapart. La différence, elle est très importante. Hein. Mediapart, c'est accessible aux abonnés. Les enquêtes, les articles sont accessibles aux abonnés. Vos contenus à vous, ils sont disponibles gratuitement sur votre site, Disclose, mais aussi sur des médias partenaires. On n'est pas habitué à voir ça en France. Ça n'a pas dû être évident d'ailleurs pour les médias en question d'accepter de participer comme ça gratuitement à la diffusion de vos informations.
Il y a eu un peu d'hésitation ou un peu de questionnement sur justement...
C'est la course à l'échalote en France entre les journalistes quand même pour dévoiler des informations.
Mais notre force à nous, c'était d'arriver comme média à but non lucratif, donc pas du tout sur le même terrain et par ailleurs pas concurrentiel parce qu'on n'est pas là pour produire de l'actualité en flux continu, ce qui est le cas de nos partenaires du coup. Nous, on veut faire des enquêtes 3-4 par an, donc on a du temps. Ça a été un peu compliqué, mais avec les discussions, avec pour le coup la puissance de l'information qu'on avait en plus à livrer sur notre première enquête, on a réussi à réunir tous nos partenaires.
Donc Combini, Radio France, Arte,
Mediapart. Et The Intercept aux États-Unis.
Voilà, autour de la table pour préparer cette diffusion commune et c'était assez riche.
Il y a cette opposition permanente hein, depuis l'émergence de la presse en ligne entre le payant et le gratuit. Votre ambition à vous, c'est de sortir de cette opposition?
Bah, on va rester, nous, gratuit. Il restera tout le temps en accès libre. Ça, on ne transigera pas. On ne viendra jamais en partie payante, avec un mur payant. Ça sera en accès libre.
Ayant un modèle économique solide.
Voilà, en ayant un modèle économique solide. Et alors, ce modèle économique solide, pour ça, c'est de sortir du flux. Et donc, on sort de l'actualité et on va être sur un rythme beaucoup moins soutenu qu'un site comme Mediapart ou qu'un site d'actualité. On ne viendra pas chercher tous les jours de l'information sur Disclose.
Un dernier mot, rapidement, c'est intéressant de préciser... Geoffroy Lévolosi, que vous avez travaillé pour Envoyé Spécial notamment, mais vous avez aussi fait un documentaire sur le Crédit Mutuel qui avait été censuré, a-t-on dit, par Bolloré, parce qu'il devait être diffusé à l'époque sur Canal et finalement sur France 3. C'est cette mésaventure qui vous a donné envie de lancer ce média d'investigation?
Bah, ça a participé à la réflexion qu'on a eue au sein de Disclose sur la difficulté aujourd'hui de faire de l'investigation dans certains médias privés. Malheureusement, c'était que le début. Le Crédit Mutuel ouvrait la voie au sein de Canal+ en termes de censure.
Merci beaucoup. Le site s'appelle donc Disclose, ça veut dire révéler en anglais, et il est dispo sur le www.disclose.ngo puisque c'est une ONG. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci
et bonne journée.